Alors bonsoir et bienvenue à cette session qui me voit le plaisir d'accueillir ce soir Pauline Hachette et Romain Huette à l'occasion de la parution du numéro 16 de la revue Socio, dont le titre Soulèvements sociaux et surtout le sous-titre Destruction et expérience sensible de la violence renseignent d'emblée sur l'objet de notre session, puisque j'ai la joie de pouvoir les interroger ce soir sur l'ensemble de ce numéro, la coordination du numéro, la thématique choisie et surtout la pratique adoptée. Alors, avant de présenter plus avant ce numéro, permettez-moi de présenter nos deux invités. Je vais commencer par Pauline Hachette. Vous êtes agrégée de lettres modernes, mais vous vous intéressez aussi aux émotions, enfin, vous vous intéressez plus particulièrement aux émotions, à la fois dans la littérature, mais aussi dans l'espace public et social. Vous venez de faire paraître un essai aux éditions Classiques Garnier, qui s'intitule Sous le signe de la colère, donc avec deux auteurs privilégiés dans votre approche, Henri Michaux et Louis-Ferdinand Céline. Et vous faites partie également des équipes Fablit et SEMTI de l'Université de Paris 8. Vous n'êtes pas sans connaître Romain Huette, puisque vous avez fait paraître au début de l'année donc un numéro que vous avez déjà coordonné de la revue Socio-Anthropologie, Turbulence, sur laquelle je vous avais déjà interrogé dans Diacritique, et je renouvelle ce soir le plaisir de vous interroger. Et je viens d'évoquer Romain. Alors, permettez-moi de vous présenter Romain Huette. Il est maître de conférences en sciences de la communication et il s'intéresse plus particulièrement à la question de la violence, la question de la violence contre dirigée contre soi, mais aussi contre le monde. Il est l'auteur de deux essais très importants, dont j'ai le premier entre les mains, Le vertige de l'émeute de la ZAD aux Gilets jaunes, qui a paru en 2019, et plus récemment de Si violente fatigue, dont je n'ai que le PDF, voilà, donc imaginez-le, voilà, donc de Si violente fatigue, et dont le sous-titre renseigne assez sur ce dont nous allons aussi un peu parler ce soir, c'est-à-dire l'épuisement quotidien et surtout ses devenirs politiques. Alors, si nous sommes réunis ce soir, c'est donc, comme je vous le disais, afin de présenter ce numéro important que vous venez tous les deux de faire paraître et qui est à la conjonction de vos deux parcours et qui s'interroge notamment sur la question sensible de la violence, sur sa puissance, on peut le dire, affective, sur peut le dire son ressort politique, quelle interprétation politique on peut avoir de la violence, et aussi sur l'expression démocratique que les soulèvements sociaux récents entraînent. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est une question à la fois très simple, une question très matérielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été à l'origine de la décision de constituer ce numéro sur les soulèvements sociaux? Alors, pour mettre un peu nos auditeurs sur la piste, dans votre introduction, dans votre riche et forte introduction, vous donnez essentiellement deux raisons. Tout d'abord, une transformation des luttes sociales, peut-être, c'est la première piste que vous donnez. Et il y a déjà eu un numéro de Socio sur, je crois que c'est le numéro 2, en 2013, sur les mouvements qui agitaient alors, on peut le dire, la planète, hein, c'est-à-dire les mouvements d'occupation. Et par rapport à ces mouvements d'occupation, qu'est-ce qui a pu changer? Il y a eu des mouvements, des soulèvements sociaux dans ces dernières années, Nuit debout, Black Lives Matters, hein, on se souvient de la très très grande manifestation du 2 juin, hein, 2020, au pied de la Cité de la Justice de Renzo Piano, le mouvement MeToo et évidemment le mouvement qui a très fortement marqué médiatiquement d'acte en acte chaque samedi de la fin de l'année 2018 jusqu'au début de l'année 2019 et qui s'est étendu, le mouvement des Gilets jaunes. Alors, il y a cette transformation peut-être de la lutte sociale. Et puis, vous posez d'emblée un autre point, celui de l'inflexion de la pensée sociale. C'est-à-dire, et vous la posez en deux termes, vous dites les pouvoirs semblent démunis pour lire cette nouvelle lutte sociale, semblent démunis, mais aussi la pensée elle-même, qui pense les luttes sociales, a peut-être besoin de nouveaux objets. Alors, j'ai déjà suffisamment parlé pour une première question, mais c'était histoire de bien dresser devant nos auditeurs les objets. Qu'est-ce qui a été précisément à l'origine de ce numéro ?
Alors merci, Joanne, pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Bon, d'abord, il faut dire, sans trop tout dévoiler, mais c'est déjà aussi l'histoire d'une rencontre avec Pauline. Je me souviens, c'était dans un séminaire, de façon générale d'ailleurs, qui était assez ennuyant, sauf quand Pauline a pris la parole et a fait une intervention absolument brillante sur la question de la colère. Et on a commencé à discuter ensemble, à échanger progressivement. Et au départ, on était plutôt partis sur une réflexion vraiment sur ces affects qui traversent la littérature, mais qui traversent aussi le monde social, et en particulier cet affect de la colère. Et progressivement, on a essayé de réfléchir sur ce qu'on appelle, nous, une quête d'intensification de la vie qui semble s'exprimer à peu près partout, et notamment dans les mouvements sociaux. Et comme vous l'avez très très bien rappelé, l'idée, c'était de se demander, mais comment on peut interroger ce phénomène ? Et effectivement, quand on observe les mouvements sociaux ces dernières années, non seulement en fait ils se sont multipliés d'une façon assez évidente un peu partout dans le monde, que leurs formes paraissent déroutantes parce que on ne s'est pas véritablement habitué à les voir s'organiser de la sorte, par exemple le fait qu'ils ne s'appuient pas véritablement sur les médiations traditionnelles, l'organisation syndicale, etc., le fait qu'il y ait une soif de débordement, une espèce de nervosité ambiante, en tout cas une volonté finalement de faire de la manifestation autre chose qu'un espace complètement organisé, prévu d'un point A vers un point B. Et en réalité, en fait, on s'aperçoit que les uns et les autres ont envie d'investir la rue un petit peu autrement. Et on disait, mais tiens, c'est assez étonnant, en fait, toutes ces formes un peu, alors, on peut pas dire qu'elles sont émergentes, parce qu'elles ont déjà existé, hein, mais il nous semblait qu'il s'exprimait là, ici, une quête du vif, mais on n'était pas complètement sûr aussi de notre hypothèse. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y avait déjà eu une première tentative d'écrire un appel article sur ces questions-là. Et c'était pas du tout mûr. C'était vraiment pas du tout mûr. Et finalement, en fait, avec Pauline, on essaye de travailler une hypothèse sur laquelle on n'a toujours pas de réponse. Et c'est peut-être l'occasion d'en discuter ensemble. Hein. C'est finalement, au fond, est-ce que ces mouvements sociaux-là ne sont pas en train de traduire ce qu'on appelle une crise de la sensibilité, on hésite avec aussi crise de l'expressivité, qui se manifeste tant dans les mouvements sociaux, mais bien au-delà aussi des mouvements sociaux, c'est-à-dire une difficulté à faire corps avec le monde, à ressentir le monde. Et finalement, en fait, on essaye de s'interroger sur le vécu subjectif d'une contestation et dans quelle mesure c'est une épreuve qui n'est pas seulement intellectuelle, qui n'est pas seulement politique, qui est aussi corporelle, qui est aussi charnelle. Et voilà, on a rédigé du coup cet appel-là et on était curieux de voir comment nos collègues en sciences sociales pouvaient répondre à ces questions.
Et peut-être juste pour compléter un petit peu, prolonger un tout petit peu ça, en soulignant, c'était un peu à ça que je pensais, la question de la crise d'expressivité sur laquelle on se rejoint et qui peut-être explique un peu l'articulation entre des domaines de recherche qui sont différents, effectivement, parce que moi, je m'intéressais à ces questions de dynamique expressive plus que de cause pour appréhender les affects. Et c'est vrai qu'on s'inscrit à la fois dans un tournant sur lequel on revient, qui est le tournant affectif, the emotional turn des sciences humaines et sociales, et qu'on retrouve aussi en littérature. Mais on avait à cœur d'essayer, on avait cette approche phénoménologique que Romain défend déjà dans le Vertige de l'émeute de façon assez très claire, appuyée sur une vision effectivement de l'intérieur dans son immédiateté, dans son temps, de la violence en train de se faire, et des dynamiques expressives corporelles, verbales, artistiques. C'est parce que justement on a essayé de tracer, enfin de faire un peu ces passerelles dans le numéro, on y reviendra sûrement un peu plus tard, mais qui sont une approche qui nous semblait aussi un peu spécifique de ces désaffects et de la sensibilité dans ces cadres-là.
Effectivement, donc là vous avez dit un certain nombre de choses, vous avez parlé de ce tournant sur lequel on va revenir, vous avez également parlé de la place du corps, on va revenir aussi la place du corps dans l'expression de ces soulèvements, et vous avez parlé d'une quête d'intensification. Alors après avoir lu l'ensemble du numéro et être revenu sur l'introduction, la première question pour entrer peut-être montrer l'originalité de votre saisie, c'est peut-être de parler de cette expression que vous avez, à savoir de parler finalement de ces mouvements, de ces soulèvements sociaux, en pratiquant ce qu'on peut appeler une approche charnelle, hein, c'est-à-dire vous le désignez dans votre introduction comme un bloc de sensations. Vous en parlez comme d'un bloc de sensations, et vous avez cette double expression. Vous parlez d'un présent vivant, de quelque chose qui doit, d'une sorte de présentification, être présent même au soulèvement, et essayer d'avoir une preuve de vie, de vitalité. Et la deuxième chose que vous dites, vous l'avez évoqué à l'instant, c'est ce désir d'intensification, ce désir d'intensité. Dans bloc de sensations et dans intensification, on reconnaît très bien le vocabulaire de Deleuze, qui parlait justement de ces affects, de ces blocs de sensations. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je discutais avec Jean-Christophe Bailly de la manière dont il envisageait finalement de s'immerger dans un paysage. Hein, et pour lui, il a cette expression notamment aussi de bloc de sensations, exactement de la même façon que vous. Alors, ma question, c'est... quel est ce désir d'intensification? Comment se traduit-il? Et comment vous, surtout, vous essayez de l'appréhender? Vous avez parlé à l'instant d'une approche phénoménologique. Hein, c'était l'objet de Vertige de l'émeute, mais c'est l'objet aussi d'un certain nombre de contributions dans ce volume sur lesquelles on reviendra. Voilà, ma question est donc double. Comment se traduit ce bloc de sensations? Quelle est pour vous l'approche nouvelle que l'on peut en produire? Et surtout, comment vous, par quels outils, on peut appréhender ce point de vue qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, un tournant dans l'histoire des affects? C'est beaucoup de questions. Hein,
peut-être que je peux commencer par un point qui est, mais peut-être par un petit angle plutôt qu'un grand, peut-être parce que la question est intimidante, mais qui est celui de la destruction, par exemple, qui me semble peut-être un peu plus simple que, enfin pas plus simple, peut-être un peu mieux à voir que et permet de complexifier après l'approche justement des affects, puisque c'est ce territoire privé ou verbalisé avec sa différence, forcément adressé aussi. Enfin bon, ça met en lien d'autres choses. Le fait d'avoir voulu insister un peu sur l'expérience de la destruction, par exemple, on le présente dans l'introduction, on essaie de l'expliquer comme quelque chose qui va un peu au-delà ou en deçà, peu importe, mais qui n'est pas exactement une approche par le symbole, par exemple. C'est-à-dire qu'on voit ce retour, en tout cas, la destruction, les dégradations ont droit de cité dans les sciences sociales, intègrent le répertoire de la contestation. On a pu voir avec Black Lives Matter, le déboulonnage des statues, un certain nombre de choses. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une légitimation, en tout cas une reconnaissance de ce type d'action symbolique et une lecture de sa signification, de sa sémiologie, si on veut, qui semble assez accessible. Nous, on s'est intéressé à des moments où ça pouvait paraître plus confus, un peu indécidable en termes de signification, en tout cas pas directement... décodable. Et donc, on est plus passé par des hypothèses sur la rencontre matérielle. C'est aussi la crise de sensibilité dont parlait Romain tout à l'heure. L'expérience matérielle, le retour à une forme de rencontre matérielle avec le monde qui nous semble avoir droit de cité. Alors, ce n'est pas pour disqualifier l'idéologie ou les idées. Qu'on retrouve aussi à certains endroits, évidemment, mais cette sensation même, et là, on trouve le bloc de sensation d'une transformation du monde, puisque ça se pose aussi en contrepoint avec un sentiment d'impuissance politique, un sentiment d'être inaudible, un sentiment d'absence, d'impossibilité de transformation, d'être pris dans une sorte de mouvements inertiels sur lesquels on a peu de prise. Et donc, c'est une façon on fait cette hypothèse d'une ressaisie matérielle du monde dans ces actes-là, avec une attention à ces dynamiques de transformation des états de la matière, de transformation de soi, de transformation de sa perception dans un environnement, dans ses actes mêmes, et pas juste l'objet et sa signification aux yeux des autres.
Oui, rapidement, parce que Pauline a déjà dit beaucoup de choses, mais... Moi, j'aime bien, en tout cas, partir de questions parfois très simples quand on fait des recherches. Et il y en a une que Deleuze, une double question que Deleuze posait dans qu'est-ce que la philosophie, c'est qu'est-il en train de nous arriver et que sommes-nous en train de devenir, quoi. Ces questions-là, elles sont tout à fait structurantes. Il n'y a rien de plus clair que ce genre de questions. Et il s'agissait de les appliquer, en fait, à la question de tous ces mouvements qui nous traversent. Et Pauline a parlé de l'impuissance. Et il nous semble qu'évidemment que ce constat, ce diagnostic d'une impuissance, c'est-à-dire en fait d'un rapport à un monde qui est impraticable tant d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue pratique. Cette idée que nous ne comprenons pas grand-chose du monde qui est le nôtre, nous avons en tout cas du mal à imaginer les possibilités de transformation de ce monde, mais déjà dans un état intellectuel, quoi. Alors c'est pas nouveau, peut-être que c'est quelque chose qui se radicalise et qui se vit sur le coup sensiblement, quoi. Et puis c'est l'impuissance d'un point de vue pratique, c'est concrètement comment on inaugure ou on tente de peser sur le politique avec, je pense, une radicalisation d'une crise de la communication sociale qui est assez claire, quoi. C'est-à-dire que les diagnostics critiques sur la société ne cessent d'être cumulés, etc. Et de façon générale, ce sont des diagnostics qui ne font pas l'épreuve de l'audition politique, au sens qui sont inécoutés, etc. Qu'il y a un véritable problème en termes de communication sociale. Et on pourrait s'attendre à que cette impuissance, finalement, elle replie les individus dans leur sphère privée, qu'elle les ressorte qu'elle les coupe du monde, comme Arendt disait ça à son époque. Une des plus grandes crises de notre temps, c'est la perte du souci pour le monde, la perte de ce lien qui nous unit au monde. En fait, nous, on se dit que non, au contraire, il y a une quête, une rencontre, une tentative de rencontre avec le monde. Alors, une tentative un peu brisée, quoi. Une tentative, effectivement, extrêmement conflictuelle avec le monde. Les Gilets jaunes l'ont très clairement montré, parce que les Gilets jaunes, pendant tant de mois, se sont réunis dans les ronds-points, se sont réunis aussi tous les samedis pour dans les rues, etc. Donc on voit bien cette quête du monde quasi passionnée, alors évidemment brisée parce que elle s'est traduite par des conflits importants avec les forces de l'ordre. Mais voilà, pour nous ça c'était des choses qu'il fallait véritablement interroger et au-delà en fait d'une simple analyse des motifs de la contestation. Je pense qu'il faut vraiment le faire, évidemment. C'est assez clair, quoi. Mais il faut aussi se demander, finalement, au fond, qu'est-ce qui est véritablement vécu dans ce temps de la révolte, quoi. C'est pas tout à fait nouveau, mais peut-être que, justement, le fait de vivre une manifestation comme un bloc de sensations, c'est aussi une façon de répondre à une vie qui, de façon générale, n'est pas seulement plongée dans l'impuissance, mais est plongée justement peut-être dans l'absence de sensations, c'est-à-dire une réponse à une espèce de vie froide dans laquelle ne se passe pas véritablement d'événements concrets, dans lequel finalement, au fond, on la traverse sans qu'il n'arrive véritablement quelque chose. Or, tous les samedis, avec les Gilets jaunes, il arrivait quelque chose, sur le coup, quoi. Et parfois même, je me souviens, parce que j'en ai fait l'ethnographie de je ne sais combien de manifestations, je me souviens de voir aussi parfois des quêtes désespérées d'attendre qu'il se passe quelque chose où vous n'avez pas la force pour déborder un cordon de policiers, mais il y a quand même une tentative d'aller se frotter quand même à la matraque, et ce qui n'a aucun sens d'un point de vue purement stratégique, d'un point de vue en raison de la symétrie des rapports de force, mais qui dit quelque chose, quoi. Et dans cette rencontre, enfin, on l'analyse un peu de cette façon-là, pour nous, ce qui est saisissable de façon assez incroyable, c'est ce moment qui est une rencontre avec le pouvoir, quoi. Une rencontre avec le pouvoir que nous ne rencontrons pas dans la vie de tous les jours. En tout cas, il nous traverse, mais il est assez illisible, assez indéchiffrable, etc. Et or, dans ces situations-là, le pouvoir, vous l'avez sur votre corps. C'est la trace de la matraque sur votre corps. C'est ce pouvoir qui essaie de vous attraper. C'est ce pouvoir qui use sa violence. Et donc, c'est aussi un pouvoir qui est en échec parce que précisément il a besoin de faire montre de la violence, en fait, pour tout simplement essayer de canaliser ce qui le déborde, quoi.
Et oui, et donc justement dans ce que vous décrivez, dans cette expérience de la violence, en fait, ce qui est assez intéressant dans votre propos, qui me semble vraiment mériter lecture, c'est que vous abordez la violence sous un jour totalement paradoxal. C'est qu'au lieu de faire de la violence l'expérience d'une destruction, vous la retournez en une expérience justement de construction, c'est-à-dire se construire soi-même, une sorte d'espèce d'odyssée ontologique par laquelle le sujet peut se constituer à la faveur d'une destruction, ce qui est pour le moins paradoxal, parce que l'idée très courante de la violence, c'est les casseurs, ils cassent tout, ils cassent les vitrines, etc. Ils dégradent tout. Vous proposez justement de montrer cette espèce de, alors avec beaucoup de guillemets, hein, ce sorte de vitalisme à l'œuvre dans cette manifestation. Vous proposez de le lire à l'aune d'un concept. Qui justement traduit cette crise de la sensibilité dont vous parliez très justement. Vous proposez de le lire avec ce concept de forme de vie. Hein, vous mettez sur la table ce concept de forme de vie. Effectivement, il vient de, pour le dire vite, de Wittgenstein, mais il est vraiment mis en avant depuis quelques années par des philosophes comme Sandra Laugier ou des critiques littéraires, puisqu'elle est d'abord critique littéraire, Marielle Massé. Donc ce concept de forme de vie, vous dites qu'effectivement, vous l'avez rappelé à l'instant, on peut s'intéresser aux formes de contestation, etc., mais dans cette destruction, il y a une forme de vie qui est un cri, qui se pense aussi, dites-vous, comme une critique de la société. Voilà. C'est-à-dire que vous ne faites pas de la forme de vie un simple élément de « ah ben, on va aller observer les vies des autres ». On observe les formes de vie, justement, pour critiquer à la fois la société, pour justement proposer une autre société. Alors j'aimerais que, si c'est possible, vous éclairiez ce concept de forme de vie, pourquoi il vous semble productif et pertinent, au-delà de la petite explication un petit peu très trop rapide que je viens de faire.
Je peux commencer un peu sur cette question. Effectivement, ce concept de forme de vie, il semble traverser quand même le champ de la philosophie, de la littérature, et de façon assez insistante ces dernières années. Et il nous semble qu'il coïncide avec un certain nombre d'aspirations sociales qui sont en train de se déployer dans les différents mouvements sociaux, Black Lives Matter, etc., dans lesquels, finalement, au fond, il nous semble qu'il y a une critique des orientations du vivre, une tentative d'élargissement, justement, des normes acceptables de la vie. Donc, le concept de forme de vie, c'est pas seulement se demander comment emploie-t-on nos journées, de quoi est fait le contenu de notre vie, etc. C'est quel genre de vie je peux revendiquer, quel genre de vie, en fait, ont tendance à être qualifiées ou, au contraire, à être disqualifiées politiquement, quoi. Donc on pense que c'est un concept qui est assez intéressant et surtout en fait qui répond peut-être, là encore une fois, à cette fameuse impuissance qu'on évoque depuis quelques minutes déjà. Et pourquoi en fait c'est une réponse? C'est qu'il semble que quand même le propre de l'état dans lequel on est, c'est une intolérance absolue au dehors. L'intolérance absolue au dehors, c'est-à-dire en fait la difficulté à imaginer en fait des espaces qui échappent au contrôle, qui échappe au pouvoir au pluriel, bien sûr. Et pourtant, en fait, c'est dehors. C'est précisément ce qui permet peut-être d'essayer d'inventer, d'expérimenter des formes de vie qui pourraient nous interpeller, qui pourraient faire différence avec le présent. Quoi. Et c'est pas si étonnant que cela que plutôt qu'aujourd'hui d'être dans des tentatives, en fait, d'édification d'un monde qui serait véritablement alternatif, en fait, on n'arrive pas véritablement à l'imaginer très concrètement. Par contre, il y a un revirement autour de l'expérimentation. Quoi. Et cette expérimentation, ça passe notamment par ces espaces un petit peu ces espaces de dehors dans lesquels on essaye d'inventer la vie un peu autrement, dans la façon dont on se tient les uns et les autres, dont on fait communauté, la façon dont on se rapporte à la nature, la façon dont on va travailler, etc. Quoi. Et moi, je prends dans les mouvements quand même qui nous ont traversés, qui ont eu une influence quand même assez forte, les ZAD, par exemple, l'ont montré assez clairement. Et on voit aussi combien il y a une intolérance absolue, en fait, dès lors qu'il y a cette tentative d'imaginer des existences alternatives. Donc voilà, nous, le terme de forme de vie paraît assez intéressant pour se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a des formes de vie qui sont souhaitables? Quelles sont les formes de vie qu'on peut effectivement condamner, qui ne sont pas désirables? Est-ce qu'on a une manière collective de se tenir ensemble et notamment une manière peut-être un peu créative de se tenir ensemble, c'est-à-dire quelque chose qui échapperait aux cages d'acier dans lesquelles on est placé, quoi.
Et pour faire le lien avec donc ce que décrit tout Romain là, c'est sûrement la notion d'expérience avec la dimension plus conflictuelle et sur laquelle on était auparavant, de confrontation, c'est qu'effectivement, c'est cette notion d'expérience et de réappropriation qui est au cœur de ces dehors donc, qui se construisent et qui sont quand même des réappropriations d'expériences sensibles. Et à partir de là, de création, effectivement, d'autres façons de vivre et ouvertes. Et cette notion d'expérience, on l'a retrouvée dans cette question de la violence qu'on évoquait auparavant et de la confrontation, parce que elle fait. Alors, il y a un registre romantique qu'on entend. C'est pas non plus une apologie. Faudrait pas entendre ça comme une forme d'apologie comme ça d'une destruction. Justement, on essaie de l'envisager comme quelque chose qui pourrait être autre chose que nihiliste, sans non plus voiler, bien sûr, toutes ces crispations, toutes ces dérives, dans l'attitude même, hein, au-delà même, c'est-à-dire dans ce dans quoi ça peut aussi enfermer, en réalité. Mais ce sur quoi on met l'accent, c'est ces formes d'actualisation aussi de choses abstraites qui nous entourent. J'y pensais tout à l'heure, ça revient peut-être un petit peu à la question précédente, mais quand Romain parlait de la façon de faire sortir le pouvoir, il y a aussi la façon de faire sortir... une espèce de monde, enfin, d'actualiser ou de concrétiser une sorte de monde environnant et menaçant dans son abstraction, et par exemple la destruction, il y a aussi une forme d'apparition de ce point de vue-là, de sa matérialité, de son existence, dans un monde qui ne cesse d'embrasser le terme, l'idée, sans qu'on arrive à saisir justement bien sa menace, enfin, rationnellement oui, mais concrètement on en cherche comme ça des manifestations, et il y a ces formes d'actualisation qui rouvrent sur des recompositions, hein, des formes dans un sens esthétique. Il y a notamment par exemple une contribution qui nous a touché beaucoup tous les deux de Pierre Meunier qui est donc un dramaturge, enfin, un homme de théâtre, et qui dans une pièce qui apparemment comme ça n'a pas de contenu directement politique, qui s'appelle Buffet à vif, où on voit deux hommes qui s'attaquent à un buffet, qui le détruisent à main nue pendant un certain temps dans la pièce, sans qu'on en connaisse d'ailleurs les raisons, sans qu'on en connaisse les causes, et c'est mêlé, on parlait tout à l'heure de blocs de sensations, c'est mêlé justement c'est un bloc d'affects variés, de gestes, dans cette prise face à un beau buffet artisanal, à chaque représentation, un nouveau buffet, une nouvelle existence singulière, bon, et cette démolition par des hommes de ce que d'autres hommes ont construit, c'est dans ces termes-là qu'il le décrit, et par différentes... des différentes interrogations, ils s'en prennent à différents outils, à cet objet, et on assiste à ce spectacle silencieux dans la représentation, et puis arrive un moment où on arrive à cet achèvement, cet état transformé de l'objet, et vient un moment de recomposition, mais qui n'est pas complètement, c'est pas tout idéalisé, ce serait simple de dire peut-être c'est la tabula rasa, et puis on reconstruit autre chose. En fait, on a assisté, nous, à quelque chose qui nous a interrogés comme spectateurs, qui nous émeut, dont on ne sait pas quoi penser. Enfin, on est traversé par tous ces affects, ces sensations douloureuses, vraiment, dans ce qu'on prête même à cet objet-là de ressenti, presque. Et le moment auquel les spectateurs sont invités est un moment de recomposition complètement ouvert et en même temps assez aimanté. On en fait l'expérience, on monte sur scène et on recompose. Et Pierre Meunier, pour ce numéro, a parlé d'une représentation à Sarajevo de cette pièce, donc dans des circonstances où effectivement il y avait cet écho, c'est plus qu'un écho, mais aussi quelque chose d'assez indéfinissable pour la salle, avec des violences majeures, des violences subies justement, où là... on redonnait une possibilité. Alors, il n'idéalise pas, il n'en fait pas du tout une offre dirigée. Il met à disposition ça, de réactualisation et, bien sûr, aussi de recomposition, de transformation, de réparation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il décrit aussi ce qu'il a pu voir de l'intensité de cette salle qui vient sur scène à ce moment-là et dont il dit que c'était une représentation comparable à nulle autre dans ces lieux-là. Donc il y a ces échos entre des choses qui ne sont pas forcément directement politiques et qui réactivent ce rapport de prise, de bloc et de mix d'affects et de recomposition possible qui me ramène aux formes de vie.
Alors, pour prolonger juste ce que vous venez de dire, ça, ça m'amène à la question suivante. Vous avez tous les deux exprimé, donc vous disiez qu'il faut s'intéresser effectivement aux motivations, bien évidemment, qui procèdent de ces soulèvements sociaux. Mais vous insistez dans votre introduction, et un grand nombre d'articles d'ailleurs insistent sur l'expérience du mépris, en fait, sur cette expérience du mépris qui est éprouvée par ceux qui s'adonnent, pour le dire vite, hein, à la casse et à la violence. Et cette expérience du mépris, pour vous, elle est retournée dans l'acte de destruction en expérience de reconnaissance. En expérience de reconnaissance, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret? Par exemple, moi, je pense au 1er décembre 2018, hein, qui était, je crois, l'acte 3 des Gilets jaunes. On se souvient, ils sont entrés dans l'Arc de Triomphe, ils sont allés en bas, là, ils ont cassé une pauvre statue très, très laide, là, en plâtre. Tout le monde en a fait toute une histoire. Et la diffusion médiatique de cet événement, cet acte de vandalisme, puisque c'est quand même un acte de vandalisme, c'est pour vous, en fait, une réaction, en fait, un acte de reconnaissance. C'est ce que vous dites. Donc, c'est un acte social, en fait, et non pas asocial. Voilà. Enfin, je voudrais que vous développiez, puisque c'est contenu à l'intérieur de ce texte.
Oui, alors, il y a la dimension de visibilisation, vraiment, de soi. C'est ce qui nous intéresse aussi dans à la fois la destruction et la colère, qui est quand même un affect d'éclat. Romain parlait de cette rencontre qui était la nôtre autour de ces questions-là, et où je me souviens justement que la question était le conflit. On a traité du conflit, la conflictualité, et notamment de cette question de la différence entre le ressentiment et la colère, et de cette notion de l'éclat, de la visibilisation, finalement, qui est une des interprétations possibles de ces manifestations-là. C'est-à-dire aussi, ça devient une colère en soi, et pas juste à visée transformatrice, stratégique, dans la question, justement, enfin, telle que la violence a pu être aussi abordée. C'est-à-dire, est-ce que son caractère opératoire, efficace ou non, et on s'est un peu décalé de ça. Et donc, cette dimension, comme ça, d'acte visibilisant et d'affect, voilà, qui, en soi, déjà, hein, ont cette caractéristique de se déployer, d'avoir une certaine flamboyance, un certain panache, si on veut. Il y a cette dimension qui nous semble aller du côté de la reconnaissance. Après, c'est développé aussi à partir, effectivement, de la théorie d'Alex Honneth, mais on y reviendra peut-être après, ou Romain y reviendra peut-être, mais c'est cette dimension-là, et c'est aussi ce qui explique, je crois, qu'il y ait beaucoup le recours à l'image, dans ces textes, dans plusieurs textes, en fait, non pas simplement, enfin, pas uniquement comme témoignage c'est le caractère spectaculaire, mais bon, pour ça, oui, pour sa diffusion, bien sûr, pour ses preuves, mais aussi parce que il y a cette captation, hein, on voit ce lien entre reconnaissance et même esthétique, qui est souvent évoqué, d'une visibilité, voilà, qui semble venir réparer, faire valoir des vies qui se sentent diminués, méprisés.
Simplement pour donner un élément un peu plus contextuel, sur les Gilets jaunes. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des Gilets jaunes, mais il y a quand même plusieurs articles sur les Gilets jaunes, naturellement, parce qu'on a quand même été traversé par un mouvement assez inédit, donc ce n'est pas si étonnant que plusieurs articles portent sur ce mouvement social. Ce qui paraissait assez évident, c'est que, bien sûr que la question, elle a été, c'était une question sociale, une question économique, etc., mais elle a été aussi très largement une question de dignité. Et d'ailleurs, la violence a largement augmenté à mesure que le sentiment d'humiliation a grandi, quoi. Et si vous regardez les slogans, ou en tout cas ce que les Gilets jaunes ont retenu des réactions du président de la République Emmanuel Macron, c'est par exemple le fait, hein, de traverser la rue pour trouver un emploi, c'est le fait « ils ont qu'à venir chez moi me chercher ». Voilà, la première chanson des Gilets jaunes, c'est « on va venir chez toi ». Voilà, il y a clairement en fait quelle est la quête autre ici que de retourner en fait ce mépris pas seulement d'ailleurs en une demande de reconnaissance, mais en une exigence de réparation en fait de cet acte de mépris, quoi. Et il y a l'idée en fait que dans le geste de destruction, Quand vous brisez une vitre, alors effectivement, là, vous affectez la matérialité du monde. Là, si c'est une vitre de banque, c'est très symbolique, hein, mais la vitre qui s'effondre, déjà, ça fait du bruit. Vous avez des spectateurs qui applaudissent derrière, y a toute une quelque chose qui est en train de se passer. Et quand vous prenez le bout de verre dans la main, vous avez quoi dans la main, quoi ? Un énoncé qui ne dit pas vraiment, qui ne dit pas grand-chose, mais en tout cas, c'est un énoncé et aussi c'est un fragment du pouvoir, quoi. Et si vous serrez un peu trop fort ce bris de verre, il vous blesse, quoi. C'est aussi l'image d'un pouvoir qui blesse, quoi. Et donc, il y avait cette idée de se dire que cette rencontre, c'est une rencontre qui passe par le toucher avec le monde. Alors là, encore une fois, je ne cherche pas du tout à sétiser cette relation-là, ça serait très problématique, hein, évidemment, quoi. Mais c'est, encore une fois, revenir sur cette fameuse idée de ce besoin de sentir, en fait, de sentir corporellement, en fait, le monde, quoi. Et l'acte de destruction aussi, vous prenez le 1er décembre, le 8 décembre et les actes qui ont suivi, ou le 16 mars, quand le Fouquet se brûle. Regardez les images quand le Fouquet se brûle. Il n'est pas pillé, le Fouquet. Hein. Les gens sortent les tables, s'assoient. Il y a quelque chose de l'ordre d'une fascination que la rue orgueilleuse, que pourrait être la fierté orgueilleuse des Champs-Élysées, devient soudainement, en fait, un paysage complètement transformé. Le temps de la manifestation, c'est-à-dire pas très longtemps, quoi. Et qui est à l'origine de cela, quoi ? Les auteurs qui sont ici, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une présence dans le monde qui produit immédiatement des effets qui se voient par la vue, qui se voient par les odeurs, qui se voient par comment dire, cette espèce de chaos très localisé, hein, d'ailleurs, momentané. Moi, souvent, je me rappelle le 16 mars, d'être remonté des Champs-Élysées, et puis j'avais des gens à côté de moi, des gilets jaunes, qui regardaient comme ça avec des yeux très, très fascinés de ce qui était en train de se passer. On n'était pas loin d'une expérience esthétique telle qu'elle a été vécue, quoi. Ça montre bien aussi que peut-être il y a quelque chose de l'ordre, c'est très problématique, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une puissance retrouvée, quoi. Je dis que c'est très problématique parce qu'évidemment, si on considère que c'est par la destruction qu'on se construit un rapport au monde, oui, c'est évidemment problématique de le faire ainsi, quoi. Mais ça indique aussi beaucoup, peut-être, hein, de l'état de la situation, je pense, quand même assez désespérée dans laquelle on se trouve, et qui suppose que cette reprise en main du monde, elle ne parvient pas à le faire par le dialogue tel qu'on s'est habitué à l'avoir, elle ne parvient pas à le faire par cette communication politique telle qu'on l'a imaginée. Et il nous semble que ça traduit assez clairement, en fait, une crise fondamentale des habitudes démocratiques. Et on n'a pas d'ailleurs besoin d'attendre les questions émeutières ou de violence pour voir ça, hein, quand on voit dès lors que il y a un certain nombre de mouvements sociaux, je pense au mouvement féministe, au mouvement écologiste, etc., et bien d'autres mouvements qui sont en train de réveiller la société sur un certain nombre d'injustices invisibilisées, immédiatement, on voit tout de suite le développement d'un certain nombre de discours qui disqualifient, avec les fameux termes de wokisme, etc., et qui montrent, là encore une fois, l'incapacité à accueillir, finalement, une quête de transformation du monde qui s'opère, en fait, de plus en plus, pas seulement sur l'injustice sociale, dans nos quotidiens, en fait, sur le rapport qu'on entretient entre nous, sur...
Ouais, juste parce que je voudrais ajouter, parce que ça me fait, ce que dit Romain me fait penser à deux choses. Mais c'est effectivement, c'est cette notion de la scène, en fait. Parce que tu parles du Fouquet, et d'ailleurs, justement, il y a cet article de David Egalo-Lasserre et Cécile Laverne qui commence par ça. Hein, le 16 mars, c'était beau, nous confie une gilet jaune à propos donc, de cet acte qui a vu le Fouquet saccager. Ce qui était beau, il y avait de tout, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, des parisiens, des provinciaux, bon, c'est l'exergue de leur article, et on revient aussi dessus à plusieurs moments sur cette notion un peu de scène, et qui me semble être une sorte de sortie aussi, à la fois de ce que tu évoques après, donc ces scènes, ces occupations de rue aussi, ces occupations de place, d'appropriation, de moments avec leur caractère éphémère, mais vécues justement comme telles, comme un moment un moment défini, circonscrit, mais où on fait exister autrement quelque chose, et qui semble une sorte de tangente, peut-être, à, d'un côté, cet échec d'une forme de délibération à laquelle il y a quand même n'accorde plus beaucoup de crédit, peut-être, et son pendant crispé, conflictuel, polémique, qui serait juste son envers, en fait, qui est plus chaud, qui est plus, mais qui est une sorte aussi de crispation dans le discours. Bon, ça serait les deux revers de la médaille, et là, ça existe sous une autre forme, ces petites scènes éphémères.
Me vient une question que je voulais vous poser à la toute fin, mais puisqu'on en parle, vous avez commencé tout à l'heure à parler de romantisme, de prendre vos précautions. C'est d'ailleurs à plusieurs reprises dans le volume, il y a une mise à distance d'une vision un peu, vous dites, vous parlez d'héroïsation un petit peu de la violence, une héroïsation qui serait une manière de légitimation. Mmh. Et vous la mettez à distance en parlant du danger d'une vision un petit peu romanticisée ou romantique de la violence. Mais ça m'a fait penser un peu au tournant de Didier Huberman dans les années 2010. Hein, on se souvient de l'exposition Soulèvement, et on se souvient de la querelle avec Artières sur justement le fait de décontextualiser le geste, puisque on se souvient qu'il y avait des révolutionnaires, on voyait une main, on voyait un bras, et le danger que soulignait Artières, c'était un double danger, celui d'une décontextualisation. C'est-à-dire, on voyait ces gestes, mais ils perdaient de leur dimension révolutionnaire à mesure que, justement, ils n'étaient pas pris historiquement dans un ensemble de déterminations. Et la deuxième chose, c'est que le geste apparaissait en lui-même et avait tendance à devenir une manière de performance. Est-ce que, justement, je vais finalement arriver à ma question, est-ce que, finalement, le fait que les Gilets jaunes, parce que c'est vrai, un grand nombre d'articles sont consacrés aux Gilets jaunes, ont utilisé notamment la question de l'acte, hein, qui fait référence à l'action, mais qui fait aussi référence à la dramaturgie, au lexique théâtral. Est-ce que précisément ils n'ont pas joué d'une manière, je dirais, un peu, peut-être même malgré eux, de cette esthétisation du geste? C'est-à-dire, finalement, dans une société qui est tournée vers ses écrans, une société qui, vous l'avez dit tout à l'heure, use de l'image, est-ce que précisément, il n'y avait pas quelque chose entre la publicité et la performance ?
Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est une question qui effectivement est...
Mais elle est un peu compliquée.
Elle est compliquée et elle est intéressante. Si on repart de Soulèvement, c'est effectivement, je pense que les questions que ça a soulevées dans cette polémique avec Philippe Artières étaient, interrogées. Enfin, moi, c'est des interrogations qu'on a partagées, je pense, avec un certain nombre face à la fois la compréhension du geste, pour le coup, de Georges-Didier Huberman, ces questions des montages, de faire entendre, sinon des archétypes, des formes qui passaient, et en même temps, le risque d'écrasement, non seulement des causes et des motifs, mais aussi parfois de l'émotion même qui face à tel ou tel geste. Le danger, il est là. Et inversement, je dirais qu'il y a quelque chose, peut-être du discrédit qu'on jette spontanément sur la question du spectacle, comme une forme de quelque chose de factice ou quelque chose d'inauthentique, et qui est peut-être à interroger aussi autrement. Je pense à une scène de L'homme sans qualité de Musil, dont on a parlé une fois, où on le voit justement observer cet homme sans qualité observer la foule, hein, qui manifeste et s'interroger sur la comédie, se disant mais dès qu'ils sont plus sous les fenêtres, finalement leur colère devient Ils changent de visage. Alors, j'ai plus le texte exactement en tête, faudrait que je le... mais en tout cas, il y a cette idée qu'ils sont un peu grimés et que, passant sous les fenêtres, dès qu'ils disparaissent, on les revoit rire, on les revoit plaisanter. Et ils s'interrogent sur l'authenticité, mais de son propre engagement aussi. La question de... Mais c'est pas vraiment justement discrédité. Et on avait cette discussion hier avec Arnaud Bertina à propos de, qu'on invitait dans un séminaire à discuter à propos de ses livres sur la question de l'occupation. Et on est revenu sur cette question du spectaculaire, justement. Il parlait de son livre « Ceux qui trop supportent » des GMS et de moments où, dans l'occupation, il y a eu des mises en scène de piégeage de l'usine, alors qu'en réalité, les bonbonnes étaient vides. Qu'il y a eu des moments comme ça où on se donne... dans Des châteaux qui brûlent, qui est son roman sur cette fois-ci une occupation d'abattoir qui se termine dans une fête assez grotesque, assez flamboyante aussi, qui débouche sur une vraie violence par ailleurs d'ailleurs. Cette notion même de débauche un peu spectaculaire, elle va pas forcément, et même je crois qu'en fait c'est pas particulièrement pertinent, la notion de d'inauthenticité qui va avec. Il y a quelque chose de l'ordre du faire exister. Pour les yeux, effectivement, faire exister dans une scène avec ses outrances, ses exubérances, mais qui n'est pas forcément pour autant inauthentique. Et avoir joué donc de ces actes, comme vous le dites, de cette performance, bon, c'est sûrement avoir aussi utilisé les codes de la société du spectacle, hein, c'est certain, avoir su en jouer plus ou moins délibérément, avoir créé une narration, des retours, des réitérations, les samedis, les ronds-points, enfin, ça se prêtait très très bien à la narration journalistique, à plein de choses, et ça s'est fait sûrement un peu intuitivement. Hein. Mais j'y vois pas en tout cas du tout la marque d'une instrumentalisation ou d'une forme d'inauthenticité. Je pense qu'il y a quelque chose à penser justement d'un prolongement même d'affects très forts.
Ouais. Juste pour rajouter juste quelques éléments, il y a aussi le danger hein, de l'esthétisation entre guillemets, c'est évidemment d'occulter toute la dimension politique d'un geste. Ça, ça paraît assez clair, quoi. Mais bon, de façon très triviale, hein, il faut aussi constater l'apparition ou les technologies de la communication qui sont absolument omniprésentes. Dans tous les mouvements sociaux, quoi. Les caméras sur les téléphones, cet équipement-là, il cherche pas simplement à une mise en spectacle, c'est une tentative de faire narration aussi de ce qui est en train de se passer. Et en même temps, on voit bien que il en est de même pour les pouvoirs, quoi, hein, qui cherchent aussi à rendre lisible ce qui est en train de se passer, quoi. Et on voit bien ce jeu très très ambivalent entre la caméra qui capte et qui arrive à suivre les mouvements de la population et qui arrive à identifier peut-être là où il faut intervenir, etc. Et puis le smartphone qui vient attester que j'étais là et qui vient attester de ce qui est en train de se passer. Et effectivement, en fait, tu es en train d'ouvrir quelque chose d'important, finalement, c'est de dire, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une mise en spectacle que ça vient, en fait, que ça signerait, en fait, une espèce d'inauthenticité, quoi. Ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permettrait de dire autre chose que la mise en représentation de soi est une façon de ne pas vivre ce qu'on est en train de faire, quoi. Et ça, ça nous invite effectivement à analyser le truc avec un peu plus de subtilité. Mais ça, pour ça, il faudrait aussi le faire, en fait, en fonction de, avec une véritable analyse, hein, de tous ces objets de communication qui nous traversent et qui structurent quand même aussi énormément les mouvements sociaux.
Et je rajoute juste, parce que c'est vraiment pile poil là-dessus, dans le texte d'Alain Berthaud, il y a ce moment où il parle justement de la performance filmée et partagée, et où il y a cette phrase, alors il cite à ce propos Ulrich Riboni, « Le geste de filmer n'étant pas investi de façon à produire une distance avec l'événement, tout au contraire, la production de l'image est ainsi organiquement intégrée à l'expérience, car le filmeur veut que les policiers sachent qu'ils sont filmés, mais aussi que lui n'a pas peur de se montrer. Il ne s'agit donc pas simplement d'exhiber le téléphone, mais d'exposer son corps. » Et je trouve qu'on est exactement là-dedans, dans cette idée de renverser cette notion à nouveau de... Alors, on est toujours sur des ambivalences, hein, de société du spectacle, dont on voit bien l'existence, la distance, l'abstraction qu'elle crée, mais aussi au contraire, l'expérience vivante, on y revient, à laquelle elle peut complètement permettre d'adhérer. Et il y a quelque chose là, voilà, à continuer, évidemment, enfin, une veine très, très, très intéressante, je pense, qui est creusée dans cet article aussi.
Oui, et vous parliez à l'instant de cette expérience, et vous employez également un autre mot, vous dites épreuve aussi, expérience et épreuve, et on l'a évoqué un peu depuis le début en filigrane, mais là, je vais vous poser... la question, quelle est la place pour vous de la politique, hein, dans ces soulèvements sociaux? Je vous cite, vous dites que dans ce contact immédiat et sans concession à la présence physique, vous dites, le politique reprend sens en devenant avant tout une expérience sensible et vivante. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, en quoi finalement ces soulèvements sociaux ont une dimension politique, justement parce qu'ils font peut-être un usage de la violence auquel, finalement, on peut prêter une puissance démocratique à laquelle on ne s'attendait pas.
La question est difficile.
Je suis spécialiste des questions en forme d'impasse. Je suis désolé.
Non, mais elle est difficile parce qu'en fait... derrière nous, enfin, ce qu'on essaye un petit peu de formuler, c'est que la façon dont on s'est habitué de composer politiquement ne tient plus véritablement. En tout cas, c'est ce que ça manifeste, que ça ne tient plus véritablement. On l'a dit tout à l'heure, J'ai pas l'impression que beaucoup de personnes attendent quoi que ce soit, en fait, des formes de délibération démocratique, parce qu'en fait, elles n'ont, enfin, il faudrait qu'on observe quelles sont les dernières expériences en la matière qui auraient abouti à des transformations assez substantielles des choses, quoi. Et donc, on voit véritablement, en fait, ici, une autre façon d'intervenir dans le monde. Et cette épreuve, sur le coup, elle est politique, enfin, elle est politique parce que, bien sûr, il y a des revendications qui sont claires, il y a une quête de monde qui est assez claire. Il suffit tout simplement d'écouter ce que ces mouvements sociaux sont en train de raconter, et ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Mais il y a une quête aussi, justement, d'essayer de refaire le monde, non pas sans la communication sociale, mais quand on voit que, par exemple, le RIC était une des mesures quand même extrêmement fortes défendues par les Gilets jaunes, ça montre aussi qu'il y a cette idée de composer le monde urgemment, un petit peu autrement, quoi. J'ai l'impression qu'on le distingue, en tout cas qu'on le remarque, qu'on essaye de le travailler autour de quelle est la capacité, en fait, à créer des espaces dans lesquels, effectivement, le monde est à apporter et peut être transformé. Et là, en l'occurrence, il me semble que, je reviens un petit peu sur ce qui avait été dit initialement, c'est que ce qui est coupé à ce jour, c'est véritablement la communication politique au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire la capacité d'articuler les pouvoirs avec les aspirations populaires, quoi, et notamment les aspirations démocratiques qui s'expriment de façon assez massive, quoi.
Je ne sais pas l'effet que ça peut faire aux uns et aux autres, hein, je parle peut-être subjectivement, mais moi, depuis 2 semaines, j'ai l'impression de voir sur les réseaux sociaux, depuis plus longtemps, mais là, ça se condense, hein, cette veille de week-end électoral, quelque chose qui ressemble un peu à du massage cardiaque, en fait. C'est-à-dire, il y a quelque chose... Et ça n'arrête pas, et c'est le vote utile, et c'est le vraiment. Et la question n'est pas de rentrer là-dedans, mais de ce sentiment d'être tout le temps dans des formes de rationalisation plus ou moins poussive, plus ou moins où on a dépassé encore un stade. Alors avant, c'était au deuxième tour, le Front Républicain. Vraiment, il y a eu toutes les formes que ça a pu prendre, mais là, quand même, c'est cette forme de d'activation. Assez poussive d'un désir, parce que c'est quand même un peu de ça dont on parle, quand on parle de vitalisme, etc., d'essayer de retrouver un désir dont on dans ces énonciations, il est tout sauf évident, d'un désir politique, d'un désir de transformation, alors certes de candidat pas idéal, etc., mais même de participation, en fait. C'est plutôt là qu'on sent que c'est une sorte d'asthénie, une sorte de perte de vitalité. Et on peut se demander, et la question de la bascule nous intéresse aussi, à quel moment, finalement, est-ce que c'est progressivement que on passe vers telle ou telle forme de, je sais pas, d'extrême politique ou d'abstention, ou que sais-je. Mais en fait, il y a aussi des moments, et souvent, quand on discute avec les gens, on a le sentiment que ça ressemble plus à ça, de bascule. Tout d'un coup, une sorte de coupée pleine ou de désadhésion, de plus croire finalement à ce format-là. Et à ce moment-là, ben, on voit bien que ça tombe, une sorte de participation. Alors peut-être qu'elle se fera dans les actes, peut-être, je veux dire, d'aller voter ou autre, qu'elle se fera de façon un petit peu, oui, rationnelle. Bon. Mais voilà, le désir se désinvestit de cette forme de participation-là. Et bon, il faut qu'il s'investisse ailleurs. Il faut qu'il trouve ses formes, là aussi, parce que je crois qu'il est là. Enfin, c'est peut-être là aussi où on est quand même assez optimiste aussi. C'est que ça ne veut pas dire... On a peut-être le sentiment, comme ça, dans ce panorama, que sinon, c'est une sorte de... voilà, le politique n'intéresse plus. Il n'y a plus de désir politique. Enfin, voilà, il nous semble que ce n'est pas si certain. Il y a des tas de dérivations. Il y a des endroits d'où il semble s'être beaucoup délogé. Mais il y a d'autres endroits où ils trouvent d'autres formes. Et c'est bien un désir politique, justement.
Et ce désir politique qui se serait délogé, est-ce que finalement, cette expérience de la violence ne renvoie pas dos à dos par les actes qu'elle produit et qui n'est pas forcément accompagnée de discours, hein. Je parle, bon, des black blocs, s'il y a quand même un discours. Mais si on y pense, est-ce que c'est précisément parce qu'il y a eu un mésusage de la parole politique, c'est-à-dire une parole qui serait un peu autotélique, qui tournerait sur elle-même et qui ne serait jamais suivie d'effet, où on dit finalement un peu tout et son contraire, sans qu'il y ait d'effectivité, de réaction dans la réalité, qui obligerait certains finalement à recourir à la violence pour se prouver, hein, c'est ce qu'on disait, ce que vous disiez tout à l'heure, une réalité, se cogner à la réalité, hein, étreindre la réalité dans un geste un peu rimbaldien, mais débarrassé de tout souffle romantique. Est-ce que c'est pas justement cette violence qui est le contrepoint de cet effondrement, de cet effondrement politique. Et justement, alors on parle d'eux parce qu'ils sont encore pour quelques jours au pouvoir, les macronistes, mais c'est plus largement un usage néolibéral de la parole, hein, parce qu'on voyait bien que que la présidence Hollande a fonctionné de la même façon, qu'il y a une espèce de continuité molle et dure à la fois entre les deux. Est-ce que c'est précisément cette déconsidération engagée de la parole qui, par contre-coup, radicalise cet usage de la violence?
Oui, j'aurais tendance à complètement aller oui, dans ce sens-là. C'est évidemment dans une carapace, par contre, extrêmement... vous parliez de mou et de dur en même temps. Effectivement, il y a une carapace de discours, de ce discours néolibéral, de façon, par exemple, dont Sandra Lubert, qui est à la fois politique et entrepreneuriale, managériale, etc., qui est une carapace quand même très très forte de mots, oui, très vide. Alors c'est difficile pour le coup de réactiver un peu ce genre de critique parce que on l'a tellement dit, on le sait tellement, mais ça reste sidérant en fait de violence, d'état pourri du langage, disait Marielle Massé, je crois, dans un texte d'AOC, et c'est peut-être cette violence-là qu'il faut rendre à ces mésusages-là. On tourne beaucoup quand même depuis quelques années autour de Klemperer, de sa façon d'avoir analysé, observé, analysé les mésusages du langage. C'est ce qu'a fait à un moment, c'est ce que fait Sandra Lubert, ce qu'a fait Eric Azan. C'est l'idée quand même de voir jusqu'où chacun, enfin plein de, un certain nombre de personnes ont essayé de d'analyser sur plusieurs champs finalement les façons dont des énoncés absolument antiphrastiques mais sans ironie de l'ordre de la déclaration de la promesse immédiatement suivie de son contraire sans retour dessus. Voilà, ces états de déconnexion des choses et des mots ont fait subir à la langue et à l'expressivité. Et c'est forcément... Alors oui, ça pousse aux actes, mais ça pousse en fait à d'autres formes d'expressivité, à essayer de retrouver, de redonner du sens, dans les deux sens du terme, enfin quelque chose du poids aussi.
Si je peux juste ajouter aussi que il y a quelque chose dans cette idée, j'aime bien l'idée moi de Marielle Massé sur comment faire la parole aujourd'hui, quelle attention on doit pouvoir porter sur la parole. On appelle un peu à une politique de l'attention sur ces paroles et la nécessité en tout cas de les faire et de les faire émerger. Et c'est assez étonnant, mais justement, ce qui a dérouté le gouvernement, notamment au moment des Gilets jaunes, en tout cas au moment du démarrage des Gilets jaunes, ils comprenaient pas grand chose à ce qui était en train de se passer, quoi. Ils comprenaient pas grand chose à ce qui était en train de se passer, notamment parce que les formes par lesquelles s'organisaient les Gilets jaunes ne prenaient pas du tout les formes habituelles, enfin, auxquelles en tout cas on s'était habitué. Je me souviens sur un rond-point où devant une occupation devant l'occupation d'un bâtiment, qu'importe, je me rappelle plus de quoi il s'agit, la police commence à arriver et puis commence à dire bon, est-ce que je peux parler au représentant, quoi. Puis il y a une première personne qui arrive, quoi. C'est la plus proche, quoi. Et puis commence à parler au policier, mais il lui répond vraiment. Enfin, il y a un dialogue qui est en train de s'en gêner. Puis d'un coup, il part. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ils ont fait ça deux trois fois. Puis au bout d'un moment, le policier, il a compris qu'il y avait personne en fait avec qui parler, quoi. Et ça, c'est intéressant de pas avoir d'interlocuteur. En même temps, j'ai l'impression que les Gilets jaunes, justement, ou d'autres mouvements sociaux, n'ont jamais d'interlocuteur également, quoi. Et donc, il y a un peu cette idée de, semble-t-il, en tout cas, quand on essaie de poser ce diagnostic des fameuses crises de notre démocratie, c'est bien sûr cette nécessité de faire la parole, et notamment toutes ces paroles invisibilisées qui sont en train de s'exprimer dans plein de mouvements sociaux extrêmement différents aujourd'hui. Mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement aider à ce que la parole se fasse, c'est aussi penser son authentification politique, son audition politique, c'est-à-dire, c'est pas seulement écouter cette parole, mais dans quelle mesure cette parole, elle creuse et transforme finalement les conditions dans lesquelles on est tenu de faire société ensemble. Et là encore, j'ai l'impression que cette dimension performative de la parole, essentiellement, en fait, elle va se faire dans notre vie quotidienne, dans l'arrangement des rapports sociaux que nous avons les uns et les autres. On prend le mouvement MeToo, c'est ça qu'il a révélé. C'est-à-dire qu'en termes d'institution, ça n'a pas changé grand-chose. En revanche, dans les rapports qu'on est tenu de mener les uns et les autres, là, il y a eu des transformations assez substantielles. La question, c'est comment ça se transforme en des véritables politiques.
Oui. Et alors, bon, là, ça va être une de mes dernières questions, parce qu'après, je vais laisser le public s'exprimer. J'aimerais bien que vous reveniez, si c'est possible, sur un article que j'ai trouvé parmi d'autres, hein, parce qu'ils sont tous vraiment excellents, l'article de David Egalo-Lasserre et de Cécile Laverne sur devenir ingouvernable, parce qu'effectivement, cette notion de devenir ingouvernable est une notion qu'on entend souvent dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce terme de devenir ingouvernable? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que justement ces soulèvements sociaux sont le signe d'une ingouvernabilité? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et quel philosophe est derrière cette expression? Alors là, attention, suspense.
Ouais, mais du coup, comme tout le monde sait, j'ai peur de dire des bêtises maintenant. Évidemment, la figure de Michel Foucault derrière ce terme d'être ingouvernable, c'est comment ne pas être gouverné par cela et au nom de ces principes-là, quoi. Et comment finalement échapper en fait à la possibilité qu'aurait le pouvoir de déchiffrer en fait. Et donc l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est une façon typique de se rendre ingouvernable, quoi. C'est-à-dire voilà, d'empêcher en fait tout mécanisme là, sur le coup de négociation, etc. C'est le fait de se rendre imprévisible. C'est-à-dire en fait de créer systématiquement ces espèces d'effets de surprise. Et en même temps, on voit bien que la plus grande difficulté qui se passe aujourd'hui, c'est justement d'être ingouvernable, d'être illisible, d'être indéchiffrable. Avec les mutations du pouvoir et notamment la capacité, les instruments qui existent pour analyser et lire la population, c'est absolument incroyable, quoi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a une capacité de déchiffrement de nos moindres gestes quotidiens qui est incroyable, quoi. Alors, si le défi, c'est de se soustraire, en fait, à ce regard du pouvoir, et donc si la lutte, ça serait sur ce regard-là, je pense qu'on est à rien de plus compliqué que ce genre de choses. Ça peut paraître super anecdotique, ça n'a rien à voir, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui m'a un peu marqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y avait eu... à un moment donné, il y avait eu un scandale sur WhatsApp, comme quoi WhatsApp, vous savez, l'application là, alors je ne sais plus ce qu'on lui reprochait, mais probablement de communiquer ses données en fait. Ah oui. Et immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu énormément de gens qui ont basculé sur d'autres applications, type Telegram, type Signal, c'est-à-dire des applications cryptées. C'est pas des gens qui ont des vies à cacher, des vies clandestines qui feraient peur au pouvoir, etc. C'est des gens en fait qui voulaient se soustraire effectivement au pouvoir et notamment à la réinterprétation, alors pour des fins économiques ou pour des fins de diverses fins de leurs propres données. C'est intéressant, ça, c'est que ce sentiment en fait d'un pouvoir qui nous regarde, dont l'œil est omniprésent. L'œil, il est pas seulement dans les caméras de la rue, il est évidemment avec tous les algorithmes, etc. Et comment on lui échappe et comment on résiste à cela. Alors, voilà.
Et c'est vrai que là, il y a une dimension peut-être un peu plus, enfin, sinon pessimiste, en tout cas, dans Turbulence, on avait évoqué, qui était qu'en même temps, on a cette idée quand même que des formes, bon, il y a toute une logique quantifiable qui, on parlait tout à l'heure de la délibération, voilà, les cahiers des doléances, le grand débat, ça a été des tas de logiques quantifiables, sémantiques, d'analyse de données, etc. Bon, ouais, tout ça partant, on ne sait où et jusqu'à quand. Donc, on peut se dire qu'on peut échapper à une sorte de société comme ça, computationnelle, en vantant un peu l'intensité, justement, la présence, etc. Et bon, ce qu'on avait vu aussi, malheureusement, d'une certaine façon, dans notre précédent numéro, c'était la capacité de récupération, de ce point de vue-là, politique, mais surtout capitaliste, du capitalisme tardif, pour reprendre les termes, de ces intensités-là. C'est-à-dire que toutes les données sont notamment des données d'intensité. C'est surtout des métadonnées, c'est moins les messages, et tout le monde pense échapper finalement peut-être à des communications en cryptant ces messages, mais finalement, bon, en cryptant aussi ces métadonnées, mais on en laisse tellement partout de nos actions, de nos moments d'intensité, de nos moments d'attention, que c'est extrêmement difficile, même dans ce moment de pur présent, dans ce moment de non-verbalisation, etc. Il y a une traque quand même qui est difficile, à laquelle il est extrêmement difficile d'échapper. C'était pour le versant pessimiste.
Mais écoutez, c'est sur ce versant pessimiste qu'on va enchaîner avec une discussion avec le public. Un micro va passer parmi vous et vous pouvez poser à nos invités les questions que vous voulez, enfin sur le volume.
Oui, je me suis présenté à Romain, mais pas à vous, je suis Alberto. Je tenais absolument à être là pour vous entendre, pour vous féliciter du travail et de ce que vous nous avez permis de faire. Moi, si vous voulez, ça fait un demi-siècle, un peu plus, que je participe à ce genre de situation. Ça fait 20 ans, un peu plus même, que j'en ai fait mon objet, j'ai intégré à ma réflexion toutes les dimensions d'affect que vous traitez, mais que je l'ai intégré à ma réflexion, je l'ai éventuellement intégré plus récemment à des débats oraux, mais jamais à l'écriture. Jamais à l'écriture. Il y a une sorte d'autocensure. Alors, au bout d'un certain temps, c'était plus de l'autocensure, j'ai eu quelques articles refusés quand même. Mais c'était quelque chose qui n'était pas un objet, une dimension de l'objet qui n'était pas légitime. Voilà. Or, on a besoin d'y réfléchir, on a besoin d'y réfléchir ensemble et d'essayer de le conceptualiser ensemble. Et ça, je dois dire que ça m'a forcé à écrire et ça a été une expérience tout à fait importante pour moi, ce qui me permet de continuer à travailler là-dessus de cette façon-là. Bon, je tenais à le dire quand même. Donc, je tenais vraiment à vous entendre. La deuxième chose que je voulais dire, alors là, qui nous ramène directement à l'échange que vous avez eu, c'est sur le côté spectacle et spectaculaire. Il y a eu une spectacularisation des mobilisations sociales, en gros dans les années 70-80, avec toute une mise en scène des cortèges syndicaux, les ballons, etc. Et on a vu que peu à peu, il y a quelque chose qui débordait, qui sortait, surtout à partir du milieu des années 2010, hein, c'était les têtes de cortège, qui jusqu'à finir par faire la moitié du cortège, hein, au 1er mai 2018, où le message du Black Bloc était quand même, c'est cette fois-ci on s'est organisé, ou en gros, risque de troubles à l'ordre public. Mais bon, il y a eu cette sortie d'une spectacularisation, comment dire, lisse, quelque part, et sans danger. Et il y a une dimension qu'il faut à jamais oublier, moi je l'ai observé ça, depuis un demi-siècle, si vous voulez, à un moment donné, quand on franchit un certain seuil, quand on passe à l'acte, il y a une dimension de peur. C'est-à-dire qu'il y a une mise en danger de soi, qui peut être simplement légale, hein, on risque une amende, on risque de passer, mais ça peut être beaucoup plus grave que ça. Et ça donne de la valeur. Ça donne de la valeur à l'engagement, ça donne de la valeur au spectacle, ça peut aller loin. Et on voit le bout de ça, moi, ça a été pour moi les images de Maïdan en 2014, où toute la place de Maïdan était organisée en salle de spectacle. Il y avait une scène, il y avait la sono, tout était fait pour que toutes les télévisions du monde fassent les meilleures images du monde, et en même temps, ils étaient sous le feu des snipers. Et quand à la fin, il y a eu une grosse attaque de la police et un certain nombre de morts, il y avait une chaîne qui mettait en direct l'image sur la scène, et il n'y avait pas de panique. C'est-à-dire qu'on a commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose quand des gens sont arrivés sur des civières. C'était tout à fait impressionnant. Hein. Donc cette dimension-là, il faut jamais l'oublier. Voilà. C'est effectivement, ça peut être du spectacle, mais c'est un spectacle dont le ticket d'entrée est quand même. Voilà.
Merci beaucoup et enchanté du coup. Je parlais de vous sans savoir que vous étiez là et de votre article.
Vous avez cité Ulrich Riboni, donc travaille sur les émeutes en Tunisie. C'est une très très là, c'est une des deux meilleures thèses que j'ai lues.
Et effectivement, c'est vrai que cette question de la peur dans votre article est aussi effectivement rendu très très sensible justement sur le rapport entre l'adrénaline, l'acte et ce qui s'oublie dans le moment, mais qui est présent derrière, ça Romain saura. Je me suis envie de revenir dessus. Mais merci beaucoup.
Oui, bonsoir. J'aurais plusieurs questions, plusieurs remarques. La première, c'est en tant que sociologue, donc vous travaillez sur une phénoménologie des affects, des intensités dans ce type de situation. Mais est-ce que vous êtes des participants actifs à ces situations ou vous êtes simplement des spectateurs? Première question. Dans quelle mesure vos propres corps, si vous voulez, s'impliquent-ils dans la réflexion sur ces situations? Je pose cette question parce que la distinction entre acteur et spectateur, d'un événement collectif, c'est une distinction qui... Enfin, j'ai pensé, toute proportion gardée, à la guerre d'Espagne. C'est-à-dire, pour écrire ou pour comprendre la guerre d'Espagne, il fallait faire comme Orwell, Hemingway ou Simone Weil, il faut y aller, quoi, pour en être, quoi. Alors, est-ce que vous en êtes des manifestations, des émeutes, etc. C'est une question un peu personnelle, excusez-moi. La deuxième remarque, c'est, il me semble que pas simplement dans le champ de la réflexion sociologique, mais aussi dans l'art, dans la littérature et dans le cinéma, parce qu'il y a deux films, j'en profite pour signaler l'existence de deux films sur les Gilets jaunes que j'ai trouvé absolument remarquables. Le premier, c'est Les rendez-vous du samedi, Antoine Perechetko, je crois, qui va passer demain à 19h50 au Saint-André-des-Arts. Les rendez-vous du samedi, c'est un très très beau film, je trouve. Un éloge de l'émeute, hein, très clairement. Et il y en a un autre qui est aussi un éloge de l'émeute, qui s'appelle Boum Boum, qui est d'une très jeune réalisatrice qui s'appelle Laurie Lassalle, et qui va sortir le 15 juin. Ce qui est très intéressant dans ces deux films, c'est que les deux films font un lien entre l'amour et les manifestations des Gilets jaunes, précisément comme si l'intensité pouvait passer d'une expérience privée à une expérience collective. Et c'est fait de façon, je trouve, surtout dans Boum Boum, je vous conseille particulièrement Boum Boum, parce que c'est très personnel, c'est très autobiographique comme film. Et je trouvais que c'était vraiment très remarquable. Il me semble que ce qui se construit, appelons ça peut-être une poétique de l'émeute, avec le motif de l'intensification. Alors, le motif de l'intensification, il me semble, c'est un motif typiquement romantique. Enfin, ça me fait penser à une phrase de John Keats qui dit ce qu'il faut rechercher dans l'existence, c'est l'intensité. L'intensité des impressions, des affects, des émotions. Ça me semble un motif vraiment typiquement romantique. Sur cette question de la poétique aussi de l'émeute, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez étudié dans vos articles, mais moi j'ai toujours été très sensible au graffiti, à ce qui s'écrit sur les murs, sur les banques, à l'humour, hein, et à l'intelligence de ce qui s'écrit aussi, comme slogan, comme graffiti, etc. Il y a toute une production de graffiti dans ces manifestations qui est tout à fait passionnante et très drôle et souvent d'une intelligence assez remarquable. Un dernier point peut-être. Je suis un peu réticent, lorsqu'on met l'accent sur la phénoménologie des affects, je me demande s'il n'y a pas, malgré tout, le risque de dépolitiser, enfin vous en avez parlé un peu de ce risque, de dépolitiser un peu le contenu de ces affects, ou même les situations dans lesquelles ces affects s'expriment et surgissent. Pour ce qui est des Gilets jaunes, bon, j'ai participé à quasiment tous les actes, ce qui était frappant dans les manifestations des Gilets jaunes, c'est que l'expérience que les Gilets jaunes ont faite, c'est celle de la violence du pouvoir d'État, de la confrontation directe avec la police comme instrument de la violence d'État, et ils en étaient complètement stupéfaits, quoi. Ils ne s'attendaient absolument pas à ça. C'est une expérience qu'ils n'avaient jamais faite. C'est l'expérience que, dans les quartiers populaires, les populations connaissent malheureusement depuis longtemps. Mais entre l'acte 1 et l'acte 2, sans parler de l'acte 3, il y a eu un basculement absolument considérable. C'est-à-dire que la police est devenue vraiment l'ennemi, quoi. Elle est devenue l'ennemi tout simplement parce que s'est abattue sur ces manifestations une répression d'une ampleur vraiment rarement connue, quoi. Et ce que je voulais rappeler, c'est que dans les affrontements, je suis un peu gêné par l'usage que vous faites du mot violence. Vous avez même utilisé le mot casseur. Je pense qu'il faudrait évacuer totalement ce mot du discours, parce que le casseur, c'est un mot du pouvoir. C'est très clair, quoi. Même violence, je trouve que c'est un mot qui est peut-être que, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'il vaut mieux parler de destruction ? Je n'aime pas tellement le mot violence, parce que violence est toujours connoté négativement. Violence, violence, c'est pas bien, il ne faut pas casser les vitrines, etc., etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'intensité des affects, parce que je l'ai prouvé moi-même, je pense, comme la plupart des manifestants, elle est liée directement à la sensation, à l'évidence que dans la rue, ce qui se joue, c'est l'affrontement direct avec le pouvoir. C'est l'affrontement avec la police qui crée cette intensité-là. Et il y a une évidence dans ces manifestations émeutières qui ne date pas de Gilets jaunes ou même de 2016, bien sûr, mais il y a une évidence, c'est que la rue, c'est un espace de conflit symbolique et réel. C'est un espace dans lequel se joue la question de qui, en dernière instance, qui est le maître de l'espace. Est-ce que c'est l'État, à travers sa police, ou est-ce que c'est les manifestants ? Et c'est pour ça que la police ne laisse jamais l'espace, ne se retire jamais, sauf éventuellement en Corse, lorsque les manifestants sont vraiment trop bien armés. Mais en général, évidemment, l'enjeu symbolique et réel, c'est bien de savoir qui, en définitive, est le maître de l'espace public, sous la forme de la rue, par exemple. Excusez-moi, je suis un peu long. Une dernière chose à propos des formalisations politiques de l'émeute ou des insurrections. Je pense qu'il faut quand même ne pas oublier que il y a des groupements, parce que dans ces mouvements, il y a des gens qui, évidemment, qui réfléchissent comme vous, qui pensent, qui écrivent, qui transmettent, etc. Il y a quand même une filiation, un courant politique qui me semble qui a joué un assez grand rôle, bon, en particulier en 2016, mais aussi assez vite chez les Gilets jaunes, au point d'opérer d'une certaine façon une jonction, c'est le groupe du Comité Invisible autour de lundi matin, qui a été un des rares groupes, disons, de l'ultra-gauche, à comprendre qu'il se passait quelque chose d'absolument important dans ces manifestations, et me semble-t-il qui a réussi, à proposer certaines formes d'intelligibilité politique dans un mouvement qui était au départ extrêmement confus. Mais il faut quand même se rappeler que le saccage, entre guillemets, des Champs-Élysées, c'est le 16 mars, ou je ne me souviens plus. Merci. Le 16 mars, ce qu'on a vu très clairement, c'était une alliance entre le Black Bloc et les Gilets jaunes. Ça, c'était très clair. Enfin, si vous y étiez, c'était évident. Donc je pense que la filiation à travers le Comité Invisible lundi matin n'est pas à négliger. Et d'autre part, en prenant, disons, les perspectives dans un temps long, sur cette question de l'articulation entre affect, donc vie individuelle, forme de vie, et révolution ou insurrection ou émeute, il y a quand même la filiation des situationnistes qui me paraît vraiment évidente. Il suffit de lire les textes des situationnistes, ben vraiment on retrouve des réflexions, cette articulation permanente entre le corps, le privé, l'intensité individuelle et collective. Et d'une part, ça c'est. D'autre part, dans les années 70, comme je suis un peu vieux, j'ai pu participer à la manifestation du 23 mars 1979. Et dans les années 70, c'était le mouvement autonome qui théorisait et qui était, disons, le principal moteur des débordements et des, disons, appelons ça des intentions émeutières, etc. Et il faut quand même rappeler que la manifestation du 23 mars 1979, du point de vue de la violence émeutière, était tout à fait exceptionnelle. Je veux dire, on était quasiment au bord de l'affrontement armé avec la police, puisque les autonomes, eux, contrairement aux gilets jaunes, les autonomes, disons, prônaient des formes de quasiment de lutte armée, quoi. Bon, et donc, si on regarde, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'images de cette manifestation, mais pour ceux qui ont participé, c'était vraiment tout à fait très, très impressionnant. Donc, il me semble que il ne faut pas négliger aussi cette... bien évidemment que les débordements, les émeutes ou cette dimension insurrectionnelle de donner à telle ou telle manifestation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui réactive. Personnellement, c'est précisément ce qui m'a le plus passionné dans ces événements, c'est que ça réactive toute une mémoire des manifestations, qui n'est pas évidemment celle des manifestations du PC et de la CGT. Mais dans les années 70, il y avait déjà des manifestations qui étaient très clairement émeutières. Et même à l'époque de la grande époque de la LCR, le 21 juin 1973, elle était capable d'organiser des manifestations très clairement qui étaient des manifestations quasiment armées, quoi. Oui, il s'agissait d'attaquer la police. Bon, je ne parle même pas de la situation en Italie dans les années 70. Oui, mais surtout la police qui défendait la mutualité. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long.
Merci pour répondre à tout. Je vais te donner juste un tout petit bout et après te donner la parole. Sur les références, en tout cas, sur le registre romantique, effectivement, bah, on l'assume et on en reparle. Sur les situationnistes, on en parle aussi dans l'introduction. Donc, il y a ces filiations-là sont présentes. Hein, on a mis l'accent là sur d'autres choses. Dans cette immédiate, enfin voilà, dans les questions qui nous étaient posées, mais c'est effectivement l'idée, pas de dire que c'est ni ex nihilo ni une nouveauté absolue, juste de mettre l'accent peut-être sur des éléments où la dimension pensée revendiquée est un peu moins forte. C'est peut-être là que la dimension phénoménologique et la distance avec les mouvements autonomes peut se faire, mais enfin c'est pas sans proximité avec. Avec les références que vous faisiez au comité invisible ou à lundi matin. Sur la question de l'observation participante, je vais te laisser Romain, ça te permet de répondre. Enfin, Vertige de l'émeute, je crois, permet d'y répondre de façon non privée, puisque c'est une ethnographie participante de l'émeute. Donc, et sur la question des affrontements aussi avec les forces de l'ordre, c'est vrai qu'on a mis l'accent sur la destruction, mais toi, tu parles beaucoup de la question de l'affrontement, justement, de faire sortir le pouvoir. Et je crois que tu vas pouvoir en parler beaucoup plus... précisément, mais je note juste une chose par rapport au numéro que j'ai trouvé intéressante sur ces questions de force de l'ordre, au-delà bien sûr de la violence des forces de l'ordre, de cette façon de faire apparaître aussi, non seulement elle fait monter la violence en face, mais cette façon de faire apparaître la violence de l'ordre, de la provoquer, dont tu parles très bien, juste cet article d'Élise Creuillet qui parle justement des affects du point de vue, cette fois-ci des forces de l'ordre, et qui analyse cette dimension-là, avec une enquête en leur sein aussi, et que je trouve façon de déplacer aussi ça de façon très, très stimulante.
Ouais, juste rapidement sur le motif romantique, parce que je trouve qu'il faut le prendre avec beaucoup de précautions. À la fois, il y a une chose de constater peut-être un regain, par exemple, de la revendication d'inspiration romantique. Ça, c'est une chose de le constater. C'est une chose de se demander ce que c'est en train de nous dire, justement, sur notre présent. Et c'est une chose aussi de le couper, en fait, d'autres dimensions politiques, et notamment, en fait, sur la question de comment on fait monde aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça que nous, on essaye à chaque fois, en fait, de faire droit à cette aspiration romantique, de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Et en même temps, elle manifeste très clairement ce qu'on a appelé une crise de la sensibilité, etc. Et en même temps, en fait, nous, vous avez vu qu'on fait l'effort de rattacher systématiquement, en fait, à une question politique, c'est comment, en fait, on se tient ensemble pour faire monde, pour faire monde, quoi. Bon, ça, c'est un point sur lequel, sur votre première question, je vais pas faire d'autopromotion, mais c'est bien que vous me disiez, du coup, dans le vertige de l'émeute, mais oui, on a toujours, en fait, moi, je pense qu'il y a plein de façons de travailler, et on n'a pas besoin d'être là, forcément, d'ailleurs, dans la manifestation pour parler des affects que les gens peuvent ressentir. Vraiment, en sciences sociales, des gens qui font des analyses d'images, des manifestations qui sont absolument passionnantes. Il y en a qui vont faire des sociologies plus sur la durée, avec des entretiens, etc. Et moi, je trouve que c'est très, très bien de travailler comme ça. Il faudrait éviter, d'ailleurs, de se dire que la seule manière de pouvoir raconter ça, c'est de le vivre corporellement soi-même. Je trouve que ça serait assez embêtant. Bon, moi, par contre, personnellement, j'ai choisi plutôt de vivre corporellement les phénomènes pour pouvoir en dire quelque chose. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, peut-être, parfois, on arrive à, même en échangeant avec Pauline, moi, je me rendais compte que des choses que je pouvais lui raconter, elle en mettait des mots qui étaient bien plus puissants que les mots que j'étais en train de raconter. Donc, on vise vraiment aussi, hein, essayer de croiser, en fait, les différentes approches à partir du moment que on prend au sérieux et qu'on accueille véritablement ces phénomènes. Enfin, bon, pour le reste, hein, ça fait partie du...
Oui, bonsoir. J'avais deux questions, en fait. C'est la première, je me la suis posée, c'est une question que je me suis posée au début de votre intervention, parce que je n'ai pas exactement connaissance de l'ouvrage dans les détails, mais c'était si les articles n'interrogeaient que des terrains, alors soit en France ou alors des terrains qui se déroule dans des cadres, disons, démocratiques, en fait. Et du coup, j'avais aussi cette question dans l'optique où on resterait sur un terrain français, en l'occurrence, par exemple, les Gilets jaunes. C'est que je me demandais si, à votre avis, voilà, si l'espace démocratique dans lequel on vit, on est, aussi abîmé soit-il, il serait pas aussi une condition propice à l'expression, enfin, à l'émergence, et puis à l'expression et aussi à l'exposition de la violence dont on parle depuis tout à l'heure. Et ma deuxième question, c'était si dans votre ouvrage, il y avait des articles ou des réflexions au sujet des formes d'expression de violence dirigée contre soi. Je pense notamment à aux grèves de la faim. On avait pu voir aussi à Calais des migrants qui s'étaient cousus les lèvres. Enfin, voilà, ces formes d'expression qui peuvent aller jusqu'à l'immolation. Et on a vu que ça avait été le point de départ de soulèvements sociaux. Notamment pendant les printemps arabes, mais du coup c'est pas du coup en France, mais voilà, c'était mes deux questions.
Merci. Alors effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des Gilets jaunes, mais il y a d'autres terrains, puisque ça parle aussi du Chili, des mouvements de contestation contre l'ordre social néolibéral au Chili, donc sur une longue durée, de l'incendie du commissariat de Minneapolis aussi, donc là, plus récent. Mais là, majoritairement dans des cadres démocratiques, où effectivement, c'est cet enjeu de l'épuisement démocratique autour duquel on a pas mal tourné se retrouve, en fait, même s'il y a des forces de coercition économique qui s'exercent de façon peut-être plus forte dans des réformes et tout, mais on retrouve quand même un peu ces enjeux-là. Mais il y a aussi l'article de Colin Maestrachi sur les combattants du Donbass. Alors là, il y a cette non pas qu'on sorte, mais on rentre dans un régime plus guerrier, non pas qu'on sorte de démocratie, mais on rentre dans des questions quand même qui semblent d'un autre ordre, en partie, en tout cas. Mais bon, c'est bien sur l'engagement des civils et sur justement ce qui peut faire bascule et dans ces passages à l'acte. J'ai oublié la deuxième question.
C'est la violence contre soi.
Ah oui, et ça, malheureusement, et c'est vrai que c'est très juste, c'est vrai que c'est pas rentré dans les propositions, hein, je crois pas que ça apparaisse nulle part, ça fait l'objet d'aucun article de façon centrale, et il me semble même pas de façon périphérique, et c'est vrai que c'est une question très intéressante sur le déclencheur et le fait de s'en prendre à soi, oui, dans sa symbolique, dans son geste, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et c'est sûrement... dommage, mais à venir qu'il n'y ait pas ça.
Oui, merci à vous deux. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Moi, j'avais une remarque question autour de la question pour poursuivre autour de l'esthétique et de l'articulation entre esthétique, pureté militante, dès lors qu'on trouve des formes d'esthétisation d'un mouvement social, et du rapport à la performance où, en fait, j'ai l'impression qu'on la pose aujourd'hui telle quelle, cette sorte de pureté d'un militantisme qui ne doit pas être dans cette monstration, etc., alors que j'ai l'impression que c'est des formes d'oubli de couches historiques d'autres mouvements sociaux qui sont construits autour de cette nécessité de montrer des choses qui n'a pas... Enfin, je pense, pour être explicite, je pense là au mouvement de lutte contre le sida, par exemple, d'ACT UP, up où il y avait vraiment cette question de qui était complètement assumée par les personnes qui participaient à ce mouvement au départ aux États-Unis, qui étaient des graphistes, des gens qui venaient de la publicité, de la communication, du journalisme, et qui assumaient complètement d'avoir en fait ces outils qui venaient du capitalisme, peut-être, enfin, mais qui l'assumaient comme étant des outils qui étaient efficaces en fait. Là, il s'agissait de montrer des corps qui se détruisent de l'intérieur et qui étaient complètement invisibilisés par les pouvoirs publics qui ne voulaient pas les prendre en charge et mettre en place des politiques de prévention adéquates. Et il y avait cette question de se montrer là dans l'espace public. Et je sais pas, moi, le fait que ça soit, enfin, que cette histoire-là, qui, enfin, bon, par ailleurs que je connais bien parce que je l'étudie, soit toujours mise de côté pour revenir toujours à cette question de la pureté militante, que je trouve un peu, enfin, que je trouve mal, enfin, que je trouve pas adéquate en fait pour saisir ça. Et du coup, voilà, je voulais juste vous remercier d'avoir répondu à ça, notamment sur ces séparations qu'on pose aujourd'hui entre, enfin, cette critique de la pureté et par rapport juste à la, du coup, pour poursuivre, enfin, désolé, c'est deux points qui sont articulés mais pas tout à fait, autour de la question de l'esthétique et de comment l'esthétique pour moi permet aussi de faire histoire. La place, enfin, je voulais répondre au monsieur qui est juste devant moi, dont je n'ai pas saisi le nom, la place du mouvement du Comité Invisible et de certains mouvements d'ultra-gauche qui ont aussi, qui ont, à mon sens, permis de, enfin, c'est pas structuré, mais proposer des clés de lisibilité ou des proposer des textes UD, enfin, qui étaient dans des espaces de médiatiques construits et autonomes. Aujourd'hui, je trouve qu'elle invisibilise d'autres luttes et d'autres personnes qui ont rejoint extrêmement tôt et beaucoup plus tôt en fait que le mouvement, enfin, que le Comité Invisible, en tout cas que le 16 mars, que ça soit du coup les mouvements queer, des mouvements féministes, des mouvements, le Comité Adama, enfin, les mouvements anti, enfin, où il y a eu un truc de se dire là, il y a quelque chose qui se joue dans les quartiers riches, clairement, et qu'on rejoint. Et moi, ça m'interpelle en fait qu'aujourd'hui, le mouvement du Comité Invisible, par ailleurs, que pour lequel je peux avoir certaines accointances, se retrouve une sorte de, enfin, porte cette mémoire aux dépens d'autres espaces de lutte qui peut-être n'avaient pas les mêmes relais ou n'ont pas utilisé les gilets jaunes comme faire valoir. J'en sais rien. Enfin, là, c'est pas une visée critique ou normative que j'essaye de porter. Enfin, bref, du coup, désolée pour cette question qui n'a aucun sens, mais c'était un plaisir de vous écouter.
Je peux répondre juste sur la dernière question. Moi, j'ai cru comprendre le sens. Non, mais c'est important de le souligner. Effectivement, en fait, on a toujours besoin aussi d'une logique de l'assignation, en fait. Hein. Et notamment, le Comité Invisible, c'était assez pratique, notamment parce qu'il y a quand même eu des publications qui ont été un peu lues, surtout en 2016, par ailleurs, hein, parce que les Gilets jaunes, je ne crois pas qu'ils lisaient beaucoup le Comité Invisible ou Lundi Matin, clairement non. Mais par contre, en 2016, chez les étudiants, c'est vrai que L'insurrection qui vient, etc., ce sont quand même des livres qui ont été fortement lus. Mais c'est hyper important de souligner, alors, à la fois la pluralité, effectivement, des productions écrites, autonomes, de militants, etc., ça, je pense que tu as complètement raison. Mais il y a quand même une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est en revanche la très grande coupure qu'il y a eu entre guillemets, le monde intellectuel et, sur le coup, du mouvement des Gilets jaunes, quoi. Ça, moi, j'ai été assez frappé par cela, quoi.
Ça faisait sale, en fait, les Gilets jaunes. Ils étaient assimilés à des croquants, ouais. Ça faisait sale, etc. Et je ne sais plus la manifestation qu'il y avait. C'était à Saint-Lazare, parce que moi j'y étais. On s'est fait voler notre banderole, parce qu'on est dans un lycée Mozart en lutte. On s'est fait voler notre banderole par les CRS, que nous, on a accusé de vol. Et on était avec le comité Adama. Je ne sais plus si c'était... je crois que c'était le 9 décembre. Ça commençait à Saint-Lazare, voilà. Et c'est vrai que nous, on nous a... Parce qu'on avait produit un texte dans Diacritique, voilà, pour dire justement qu'on... soutenait effectivement le comité Adama, etc., puisqu'on a une toute petite visibilité en tant que lycée qui a la parole, mais vraiment toute petite. Voilà. Et c'est vrai que nous, après, on nous a beaucoup reproché d'avoir participé en fait à ce mouvement qui a été jugé comme un mouvement dans lequel, à l'époque, hein, on disait qu'il y avait beaucoup d'antisémites, à l'époque, on disait qu'il y avait beaucoup, finalement, de gens extrême droitiers. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine méfiance de la part d'une certaine gauche intellectuelle, alors que même il y avait beaucoup, je ne sais pas si on peut appeler maintenant, des gens qui pensent les mouvements, qui étaient présents avec nous, voilà.
Mais ça a été aussi de, enfin, à la fois les intellectuels qui sont pas venus et qui probablement parfois bien souvent d'ailleurs hein, par mépris de position sociale aussi quoi. Et en même temps les gilets jaunes qui n'ont pas du tout eu besoin des intellectuels pour se penser quoi. Quand on voit que non mais celui qui était le plus lu quand même qui a fait je sais plus combien de dizaines de milliers de ventes, c'est Juan Branco quoi. Dans Crépuscule. Ça dit quelque chose aussi quand même de d'une autre crise hein, qui date pas d'aujourd'hui mais là qui s'est manifestée de façon assez éclatante dans ce moment là
quoi. Il faut reconnaître que Frédéric Lordon était présent.
Oui, non, mais bien sûr.
De l'autre côté, il faut quand même rappeler l'abjection totale de Luc Ferry. Mais c'est vrai que
oui, mais on pourra toujours trouver des noms, en fait, de façon générale. Mais l'exemple d'Act Up, c'est très bon, quoi. C'est fort. Ça nous aide à penser ce truc-là parce qu'on on le disait un peu avec pas mal d'hésitation, en réalité. Quoi.
Oui, c'est toute l'impulsion de Peter Tatchell et de Didier Lestrade, et puis aussi de Jimmy Somerville, dans une certaine mesure, qui mêlait un petit côté médiatique. On se souvient du préservatif sur la place de la Concorde ou les dying, hein, ce que le film de Robin Campillo montrait d'ailleurs de manière très, très énergique et très juste. Alors sur cette dernière remarque qui met le préservatif géant rose sur l'obélisque de la Concorde et les gilets jaunes, je vous propose de clore, hein, s'il n'y a pas d'autres questions, notre rencontre de ce soir, en vous rappelant que vous pouvez vous procurer juste là, cette revue, donc ce numéro 16, dont vous avez compris qu'il était essentiel pour penser notre présent. Je voudrais remercier Pauline et Romain de s'être prêtés à ce jeu des questions. Merci à eux.
Merci beaucoup.